profession philosophe. Mais être philosophe, est-ce un métier? Est-ce une vocation? Comment se fabriquent les concepts? Et quel est le rôle du philosophe dans la cité? Mon invité aujourd'hui tient l'animal en nous comme la part la plus noble et la plus intéressante de l'être humain. Il y a quelques années, il était venu à ce même micro nous parler de la possibilité de cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant, puisant dans la diplomatie la meilleure façon de penser le lien de coexistence avec ces animaux et avec la nature en général. Depuis, il a continué à pister les loups, mais aussi les panthères des neiges. Il a fait des rencontres, parfois ratées, et a publié plusieurs ouvrages, dont le dernier, « Raviver les braises du vivant », aux éditions Actes Sud, en appelle à une réappropriation de la défense du vivant et des milieux de vie en replaçant l'être humain dans la continuité des vivants. Il s'appelle Baptiste Morisot, et je cède la parole à l'écrivain Alain Damasio pour compléter ce portrait.
C'était près de chez lui, dans les contreforts du Vercors, on était partis comme ça, on avait été pique-niquer sur un roc, et là, au moment vraiment où la vallée commence à s'assombrir et les premières lumières de la vallée du Rhône commencent à jaillir, on entend le hurlement d'une meute de loups, qui était à 500 mètres sur la crête, hein, un peu plus loin, et il y avait ce hurlement qui arrivait sur nous tranquillement, comme ourlé par le vent. Et là, j'ai vu Baptiste réagir en appelant lui aussi, en hurlant comme un loup. Donc il a hurlé deux fois, et les loups ont répondu. Et là, à ce moment-là, c'était très beau, parce qu'il m'a dit « Voilà, Alain, ça se trouve, ils vont venir nous voir. » Et dans ma tête, je me disais « Qu'est-ce qu'ils me racontent? Ils vont venir nous voir. » c'est pas possible. Et on redescend comme ça du rocher, on remonte par le pierrier, vous êtes déjà nuit, et 30 mètres avant d'arriver vers le champ qui nous ramenait au col, on a entendu la meute hurler, mais à 30 mètres de nous, quoi, 30 mètres en contre-eau.
Je suis un loup qui jadis était très méchant, mais qui par malheur un jour s'est cassé les dents. Sur une grand-mère solide comme un roc, tout est à l'envers, c'est une triste époque. J'étais loup méchant, je suis maintenant gentil chien. Elle me promène et je lui mange dans la main. Si je ne file pas droit ou bien si j'ai tort, tout est à l'envers, c'est elle qui me mord.
Oh mon loup,
bonjour Baptiste Morisot.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci.
C'est vrai que vous parlez le loup ?
Je ne le parle pas, mais je le baragouine. Je le baragouine suffisamment pour faire illusion quelques instants de manière qu'il réponde, mais les discussions ne vont jamais très loin.
Ah oui, vous n'avez pas encore communiqué toute une discussion avec un loup ?
Mais je ne sais pas exactement d'ailleurs quels sont les messages qui passent, ou alors quand on les comprend, ça ne ressemble pas à nos phrases ou à nos discussions, mais ça ressemble à une prise de contact. C'est ça qui est quand même assez puissant, c'est qu'on se rend compte que on peut prendre contact et on peut partager une interaction dans laquelle ils sont aussi curieux de nous que nous sommes curieux d'eux. Ouais.
Je vous ai présenté comme philosophe. Est-ce que vous vous présentez comme philosophe ?
Longtemps, j'ai refusé de me présenter comme philosophe. Pendant des années, je ne sais pas d'où ça vient. Je crois que ça vient d'une révérence pour le titre qui me travaillait quand j'étais plus jeune et qui avait à voir avec la lecture de Deleuze et cette idée qu'un philosophe, c'est un créateur de concepts. Et comme je n'avais pas créé de concept, je trouvais que c'est un titre que je ne méritais pas. Et puis avec les années, il s'est passé deux choses. D'abord, j'ai commencé à entretenir un rapport plus apaisé et plus tranquille à la discipline. Et puis ensuite, j'ai créé des petits concepts. Et donc, assez spontanément, surtout en voyant dans la forme d'écriture que je proposais, la dimension philosophique restait centrale. Il m'est apparu assez clairement que ce que je faisais, c'était de la philosophie. Ce que je voulais faire, surtout, même sous des formes originales, c'était de la philosophie.
Et donc, philosophie comprise comment ? Comment vous définissez la philosophie ?
J'ai pas de définition normative de la philosophie. C'est-à-dire que moi, j'ai un rapport très pluraliste à la discipline. On voit bien déjà, ne serait-ce que dans l'histoire de la philosophie, qu'il y a autant de formes de pensée et d'inventions de problèmes qu'il y a de philosophes. Aujourd'hui, dans la profession, il y a un très grand pluralisme dans les approches, dans les méthodes, de l'histoire de la philosophie d'un côté jusqu'à la philosophie analytique. Et moi, je chéris ce pluralisme, je me nourris d'ailleurs de ce que font mes collègues sous des formes que moi, je ne pratique pas. Par contre, ma pratique propre de la philosophie, je l'imagine depuis quelques années à partir d'un modèle cartographique. je pense la philosophie comme cartographie. Ou plutôt le philosophe comme un artisan bien particulier qui fait des concepts. Et la bizarrerie de ces concepts, c'est qu'ils doivent, en tout cas pour mon travail, fonctionner comme des cartes. Et c'est-à-dire qu'ils ont pour vocation de nous orienter dans un monde compliqué.
C'est très difficile d'avoir une idée. Il y a des gens qui vivent et qui ne sont pas du tout méprisables pour ça. Ils vivent toute leur vie sans avoir eu une idée. Avoir une idée, c'est rare, c'est quand même une fête, avoir une idée. Ça n'arrive pas tous les jours. Un peintre, il n'a pas moins d'idées qu'un philosophe. Simplement, ce n'est pas le même genre d'idée. Il faudrait demander, comme ça, si on réfléchit sur les différentes activités de l'homme, sous quelle forme se présente l'idée dans tel cas. L'idée, en philosophie, se présente sous forme de concept, et il y a création de concept. Il n'y a pas découverte de concept. On ne découvre pas des concepts, on les crée. Il y a autant de création dans une philosophie que dans un tableau, que dans une œuvre musicale.
Un extrait de l'abécédaire de Gilles Deleuze, dans lequel il dit que c'est une fête d'avoir une idée. Vous avez employé le terme de cartographie, Baptiste Morisot, c'est un terme qu'on trouve sans doute chez Deleuze, non ?
Absolument. Je pense que la conception cartographique de la philosophie que je défends, que j'essaie de pratiquer, elle vient en grande partie de Deleuze, elle vient en grande partie aussi du pragmatisme américain. J'adore ce passage de Deleuze que vous venez de jouer, je le trouve très émouvant, il a vraiment un charme incroyable. Et c'est vrai que c'est une fête, avoir une idée c'est une fête. Ça fait partie des joies les plus intenses que je puisse ressentir. Le moment où une idée émerge parce qu'on a suffisamment bien construit le problème et on s'est suffisamment placé dans un lieu de tension où se noue toute une série de contraintes théoriques, pratiques, éthiques pour que émerge la résolution sous la forme d'une idée qui nous dit, enfin qui se donne comme une sorte de nouvelle carte dans laquelle un chemin de l'action s'ouvre. Et on dit, ça y est. Par là, c'est possible, en fait. On était coincés, j'étais coincé, et là, un chemin s'ouvre. Et ça, c'est vraiment une fête. Et c'est intéressant, cette manière aussi affirmative avec laquelle Deleuze revendique qu'il s'agit de créer. On crée un concept, on le découvre pas du tout. Il y a cette phrase de Nietzsche qui me frappait beaucoup quand j'étais plus jeune et qui dit le philosophe connaît en inventant et invente en connaissant. Et il dit ailleurs, c'est dans le livre du philosophe, je crois, quelque chose comme la philosophie est artistique dans ses fins et scientifique dans ses moyens. Donc les moyens, ça va être l'argumentation, la construction de raisonnement, l'analyse conceptuelle, mais la fin, il dit, est artistique. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire de la vérité. Et faire de la vérité, ça ne veut pas dire générer des fake news. Ça veut dire... À mon sens, c'est comme ça que je le comprends, et c'est ça qui est libérateur pour moi. Ça veut dire proposer une nouvelle carte. Dans une situation dans laquelle les cartes dont nous héritions, les anciennes cartes de l'expérience, étaient confuses et généraient des impasses.
Et quelle est la différence entre avoir une idée et fabriquer un concept ?
Ah, ça c'est une bonne question. Déjà, moi je pense qu'il y a une... Dans l'artisanat philosophique, il y a une situation bien particulière qui est assez intrigante. Je voudrais pas généraliser, mais en tout cas, c'est comme ça que ça m'arrive. Le travail sous sa forme la plus artisanale consiste en fait non pas à créer l'idée, mais à créer le problème, à formuler le problème de manière suffisamment précise et suffisamment intense pour mettre l'esprit dans une situation telle que il peut pas faire autre chose que venir avec une idée. Et l'idée, c'est comme si, face à une... Il faut accentuer un paradoxe, il faut accentuer une tension intellectuelle, de manière telle que on met l'esprit dans une situation de... Je force un peu le trait, mais... D'angoisse intellectuelle tellement intense, du fait du chaos, de la multiplicité des paramètres, qu'il doit, en fait, faire émerger une voie, tracer un chemin dans ce chaos pour en sortir. Et ça, c'est le moment où l'idée arrive. Et l'idée, elle arrive sous une forme donc résolutrice. Elle se donne comme la résolution d'un problème qu'on a construit, qu'on a formulé. Et dans un second temps, il faut l'affiner, comme on affine une lentille lorsqu'on est Spinoza et qu'on est artisan opticien. Et donc là, c'est un dernier temps de la fabrication du concept. C'est le moment où on le précise et c'est le moment où on détermine aussi, finalement, c'est... sa pertinence potentielle et la manière dont il libère l'imagination théorique et l'imagination pratique.
Mmh. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit j'ai inventé des petits concepts, l'expression que vous avez employée. Si vous deviez proposer un de ces concepts comme étant celui autour duquel s'articule votre travail, ce qui fait que vous faites de la philosophie, ce que vous cherchez encore aujourd'hui en philosophie, ce serait lequel ?
Alors, c'est ce que je cherche encore aujourd'hui, c'est pas la même chose que le concept le plus explicite que j'ai formulé. Ce qui est intéressant, et c'est pour vous répondre, mais je fais un petit détour. Mm-hmm. C'est pourquoi petit concept ? Parce que, et ça a à voir plutôt avec l'originalité de ma pratique, c'est que je fais beaucoup de terrain. Je construis ma pratique philosophique à partir du terrain. Et le terrain, c'est quelque chose de très intrigant en philosophie, parce que c'est pas la même chose qu'en sciences sociales. Il s'agit pas de faire du terrain comme un anthropologue ou un sociologue. Il s'agit d'utiliser le terrain comme le lieu qui va faire atterrir le concept. Et le lieu où on va voir si le concept libère effectivement l'imagination théorique et pratique. Mmh. Et ce que ça a produit comme effet intéressant, du point de vue artisanal, c'est que ça fait courir au concept le risque d'être parfaitement dérisoire, c'est-à-dire de ne servir à rien. Donc ça, c'est très intéressant que le terrain puisse vous dire non, cette fois-ci, ton concept ne sert strictement à rien, merci, retourne à l'atelier.
Donc, pardonnez-moi, mais juste pour être concret, par exemple, quand vous allez pister un loup avec votre ami Alain Damasieux, vous avez un concept en tête et vous essayez de voir s'il va tenir, s'il va résister à un travail de terrain ?
Non, non, là, on était juste en pique-nique, donc il n'y avait pas vraiment d'enjeu conceptuel. Non, non, à quoi je pense ? Par exemple, dans le dernier livre que j'ai publié, là, il y a
Raviver les braises du vivant.
Raviver les braises du vivant, il y a toute une réflexion sur la paysannerie, sur ce que c'est que l'acte paysan, ou l'acte agricole. Et toute une réflexion qui part de l'analyse de l'idée de production. Mmh. L'idée que depuis quelques décennies, on dit qu'on produit notre subsistance. On parle de production animale quand il s'agit d'élevage, on parle de production végétale quand on parle de blé. Or, ce qui est fascinant, c'est que là, par exemple, il y a une sorte de paradoxe qui émerge dans l'écart entre cette formule. Parce que l'idée de production, c'est l'idée quand même qu'on va imposer depuis notre intentionnalité et notre intelligence une forme à une matière qui est passive et abstraite. Alors que quand vous observez réellement un champ de blé, aucun paysan n'a jamais produit le moindre grain de blé. C'est la photosynthèse qui produit les grains de blé, c'est l'évolution qui a duré pendant des millions d'années, des graminées qui donnent cette capacité à ce végétal de générer de l'amidon à partir de l'énergie solaire. C'est le dialogue entre les pollinisateurs et les végétaux qui permet aux fruits de pousser. C'est à aucun moment un humain n'a produit du blé, une pomme ou un agneau. Et donc la question devient, alors pourquoi est-ce qu'on a inventé cette fiction suivant laquelle nous produisions. Mmh. Voilà, paradoxe typique qui permet de faire émerger un concept. Et mon hypothèse, c'est que la bizarrerie de la production, c'est qu'à partir du moment où on dit qu'on produit quelque chose, on se libère de toute exigence de réciprocité avec le milieu. Parce que précisément, c'est nous qui l'avons produit.
Ça engage une relation unilatérale.
Exactement. Mmh. Ça permet et ça engage une relation unilatérale qui est vraiment caractéristique de l'agriculture moderne et du rapport que la modernité tardive entretient avec les milieux. Et partout autour du monde, vous avez des peuples qui cultivent, qui élèvent, mais ils disent jamais qu'ils produisent. Et indice pas anodin, la plupart du temps, eh bien, ils s'estiment tenus à des relations de réciprocité avec les milieux dont ils tirent leur subsistance. La forêt les nourrit et ils lui rendent quelque chose. Le champ les nourrit et ils rendent quelque chose. Ils s'estiment qu'ils sont pris dans des relations de don et de contre-don. Donc voilà, là, typiquement, la question maintenant que je me pose, c'est quand je vais voir des paysans, c'est est-ce que ça marche ? Est-ce que ça leur parle ? Est-ce que quand je lis de l'histoire de la modernisation agricole, je vois des parallèles historiques entre le moment où on a parlé de production et le moment où on a estimé qu'on n'était pas tenu à des relations de réciprocité avec les milieux ? Voilà, c'est toutes ces formes par lesquelles le terrain permet de mettre à l'épreuve, de secouer un concept.
Si nous pensons à une communauté biotique ou un écosystème, ils peuvent être détruits par les activités humaines. Mais pas la biosphère, qui a résisté 3,5 milliards d'années et qui a subi des transformations radicales et catastrophiques, pour en ressortir plus tenace et plus diverse. Donc la planète n'est pas en danger. Et mes collègues qui disent « la Terre est en train de mourir » ou « qu'elle a la fièvre », ça m'énerve. C'est des conneries. Nous devons mettre en relation l'imagination et l'existence humaine à celle de la Terre, et donc recentrer l'éthique environnementale sur une base anthropocentriste plutôt que non-anthropocentriste.
Que s'est-il passé dans votre tête, Baptiste Morisot, la première fois que vous avez lu ou entendu la voix de John Baird Callicott que nous venons d'écouter ?
Ah, c'est lui, je ne l'avais pas reconnu. Je l'ai lu la première fois.
Donc c'était pas sa voix, oui.
C'était pas
votre première rencontre. Non, mais dire votre première rencontre, c'était par le texte visiblement.
Exactement.
Pas par la voix.
C'était par le texte. Ça a été assez important pour moi parce que je venais de soutenir ma thèse en philosophie, donc en histoire de la philosophie plutôt, et je doutais en fait. Je doutais de mon envie de continuer. Je savais plus trop ce que je voulais faire. J'avais des velléités de romancier, mais je suis assez mauvais romancier, donc finalement c'était pas une très bonne idée. Et puis j'ai lu ces textes de John Baird Callicott, notamment Éthique de la Terre, Pensée de la Terre, traduit en français chez Wild Project à Marseille, celui qui allait devenir mon éditeur.
Ouais.
Et à un moment, Callicott écrit une phrase un peu, peut-être un petit peu mégalo, mais sur le moment, ça m'a sorti de mon trouble. Il disait quelque chose comme « Les historiens du troisième millénaire feront remonter à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle les nouvelles conceptions de la nature dont on aura eu besoin, les nouvelles conceptions de la Terre dont on aura eu besoin pour établir des relations enfin décentes, enfin soutenables avec le monde qui nous porte. » Et en fait, je me suis dit, c'est magnifique, il y a de la philosophie à créer. Parce que j'ai ressenti qu'il y avait un problème réel, un problème vivant, un problème urgent auquel la pensée philosophique pouvait s'atteler.
La phrase exacte de Callicott dans l'article auquel vous faites référence, c'est « On a à nouveau besoin de philosophes pour contribuer à définir le concept de nature. »
Ouais, c'est ça.
Là, vous vous dites, il me parle.
Je me dis, peut-être je pourrais
Servir
à quelque chose.
Ouais.
Parce que, par ailleurs, il y a toujours eu des problèmes urgents en philosophie, même quand je n'en trouvais pas, hein, que ce soit des problèmes de philosophie politique ou des problèmes, tout type de problèmes sont vivants en philosophie, mais moi, je n'arrivais pas à creuser un chemin jusqu'à eux. Et je lis cette phrase de Callicott et moi, je suis un peu obsédé par l'idée de servir à quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, j'hérite doublement du service public en tant que fonctionnaire, mais il y a cette idée d'être utile. Et je n'avais pas le sentiment d'être suffisamment utile en écrivant ma thèse. Et là, je me suis dit, il y a peut-être moyen d'être utile, et il y a surtout une exigence de création philosophique, puisque c'est vraiment ça qu'il demande de nous, c'est qu'il dit... La carte dont nous héritons, la carte de la nature, la carte de des relations entre la société humaine et la nature, est toxique et elle nous envoie dans le mur. Et il va falloir en inventer une nouvelle. Alors j'en ai pas inventé une nouvelle, mais en tout cas c'est dans cet espace-là que toutes mes explorations ont pris place depuis.
Lorsque vous lisez cette phrase-là de Callicott, vous dites que vous êtes dans une espèce de crise, le mot est peut-être fort, mais vous doutez de votre vocation philosophique. Est-ce que ça veut dire que pour vous, en fait, vous vouliez continuer à faire de la philosophie, mais vous voyez pas comment? Parce que c'était pas, vous trouviez pas les moyens, ou est-ce que vous étiez prêt à changer complètement de discipline?
Non, j'étais prêt à changer de discipline. Je voulais pas particulièrement continuer à faire de la philosophie.
Donc c'est pas une vocation pour vous, c'est pas quelque chose que vous avez dit toute votre vie que c'est ça que vous alliez faire?
Eh bien, c'est plutôt qu'on sait pas forcément, quand on sort d'une thèse par exemple, à quoi renvoie ce mot de philosophie.
Ouais.
En fait, ce que je voulais, c'était écrire. Et je voulais écrire d'une certaine manière. Et quand j'ai commencé à écrire de manière vraiment très libre, et c'est ça Les Diplomates, mon premier livre, je me suis rendu compte que c'était de la philosophie, en fait. C'est-à-dire que j'ai redécouvert qu'en fait, j'avais toujours voulu faire de la philosophie, simplement une forme particulière. Et si on veut la décrire en quelques mots, au fond, là, c'est l'idée d'activer toutes les puissances de la sensibilité, du raisonnement... de l'intelligence pour produire des effets d'intelligibilité. Moi, j'ai énormément de gratitude pour les intellectuels, les chercheurs et même les gens au café qui produisent pour moi des effets d'intelligibilité. C'est-à-dire qui rendent un pan du monde qui était jusque-là opaque et violent, enfin intelligible, c'est-à-dire clair, mais aussi vivable. Et enfin, qui me permettent de tisser avec ce pan de la réalité opaque une relation qui désormais fonctionne. Alors que jusque-là, la confusion dans laquelle on était induisait des relations dysfonctionnelles. Et c'est ça que j'appelle effet d'intelligibilité, et c'est ça qui m'a... En fait, c'est ça qui me porte. C'est rendre notre expérience du monde plus claire en proposant des cartes qui permettent de nous orienter là où on était perdu. Et je crois que c'est une des manières de définir la philosophie.
Mmh. Parmi les petits concepts que vous avez forgés, pour reprendre votre expression, vous citiez votre premier livre, Les Diplomates, justement, savoir user de diplomatie dans notre commerce, notre relation avec les loups, avec les animaux. Ça fait partie des choses que vous avez peut-être inventées même.
Oui, complètement. Ben voilà, ça c'est vraiment un petit concept.
Mais pourquoi petit ? Enfin, je reviens là-dessus.
C'est pas du tout dépréciatif, au contraire.
C'est affectif ?
Non, c'est pas non plus affectif. C'est que les effets d'intelligibilité d'un concept sont étroitement corrélés à sa précision, c'est-à-dire à son opérationnalité. Moi, je pense que très souvent, les bons concepts sont des concepts qui fonctionnent dans des contextes précis. Je ne crois pas et je manipule assez peu des concepts stratosphériques massifs qui prétendent résoudre tous les problèmes. N'importe quel concept qui prétend résoudre tous les problèmes.
Vous en méfiez.
Je m'en méfie particulièrement. Et donc, j'aime les concepts qui sont des outils localisés. Et là, en effet, penser en termes diplomatiques nos relations avec des non-humains, par exemple des animaux, qui ne sont pas dotés de la parole sous sa forme humaine, qui ne passent pas contrat, qui ne signent pas, qui n'ont pas de convention en notre sens. Donc c'est un concept qui peut avoir l'air assez farfelu de prime abord. Ça me semblait au contraire extrêmement pertinent pour rendre visible un espace de relation avec les autres vivants qui n'est pas, inféodé au rapport de force. C'est ça le grand enjeu de cette idée, c'est de montrer qu'en fait on s'est trompé lorsqu'on a cru qu'on avait droit qu'à deux types de relations avec les non-humains, tous ceux qui ne parlent pas comme nous, à savoir ou bien on les sanctuarise, on les pousse, on les met à distance, ou bien on interagit avec eux sous la forme du rapport de force, parce que c'est tout ce qu'ils comprennent, parce que c'est des bêtes, c'est du sauvage. Et en fait, quand on regarde l'histoire du vivant depuis 3,6 milliards d'années, on se rend compte que les formes de vie passent leur temps à négocier sans parole, sans contrat, des modus vivendi, et que nous sommes parfaitement capables de mettre en place ce genre de relation avec eux, et c'était ça, la diplomatie.
Est-ce que ça donne raison ou ça nuance ce que dit Darwin ? Ce que vous appelez la négociation des espèces entre elles ou des formes de vie ?
Ça prolonge ce que dit Darwin, et c'est, je dirais, en accord assez profond avec son travail, notamment son dernier livre de 1871 qui s'appelle La filiation de l'homme ou l'ascendance de l'homme, on ne sait jamais trop comment traduire ce livre, dans lequel il met en scène cette continuité entre l'humain et les autres animaux et ce partage de segments communs omniprésents de comportements, de modes d'expression de l'affectivité, même de manières de raisonner. Et donc à partir du moment où nous partageons tous ces segments communs, la gamme des relations possibles elle est beaucoup plus riche que ce qu'a voulu nous faire croire la modernité dualiste.
Le terme de crise est sans doute celui qui revient le plus dans la bouche des personnes aujourd'hui, Baptiste Morisot. Crise sanitaire, crise économique, on est en crise permanente, crise d'adolescence, il s'applique à tout. Et vous parlez d'une crise de la sensibilité. Et vous dites notamment, vous commentez cette tendance que nous avons à considérer les bruits de la nature comme étant en fait un silence reposant. On se dit, les citadins se disent « allons à la campagne pour écouter le silence de la nature » et vous dites « mais en fait, ce qu'on appelle le silence de la nature, ça fait autant de bruit que Times Square un lundi matin, au fond. Ce que nous sommes en train d'entendre, par exemple, c'est le cas. » Ça veut dire quoi, cette crise de la sensibilité ?
Crise de la sensibilité, en fait, c'est un petit concept, parce que c'est un concept qui répond à un contexte très particulier, qui est celui de la montée donc, de l'idée de crise écologique, qui est massivement interprété comme une crise économique dans nos rapports d'exploitation au vivant, dans nos rapports de production, dans nos rapports de consommation, ou comme une crise politique à la lumière des difficultés, aussi bien pour la géopolitique du carbone que pour les États, à s'engager sur la voie d'une reconstruction écologique de nos sociétés. Et il me semblait que cette interprétation de la crise écologique comme un phénomène strictement économique ou strictement politique manquait un aspect central du problème, qui est qu'en plus de ça, la crise écologique est une crise de la sensibilité, une crise de notre sensibilité au vivant, très exactement. On peut le dire de mille manières, mais une manière de le définir en une phrase, voilà, typiquement, artisanat conceptuel. Une fois que l'intuition est arrivée, il faut la définir. Et donc, je définis la crise de la sensibilité comme la pauvreté des mots, des concepts, des perceptions, des émotions et surtout des relations que nous pouvons tisser avec le reste du vivant. pauvreté ou appauvrissement, ça, ça dépend. Mais de fait, par comparaison, on a des milliers de mots pour parler des relations sociales, des relations humaines. On a très peu de mots pour parler de nos relations au vivant. On a toute une gamme d'émotions pour sentir ce qui se passe dans les formes collectives humaines. On a assez peu d'émotions pour qualifier ce qui se passe dans nos relations avec des vivants. Et puis, la gamme des relations qu'on peut entretenir ou qu'on défend à l'égard du monde vivant aujourd'hui, elle est très pauvre, alors même que c'est notre milieu donateur et c'est le monde qui nous a fait. Donc c'était ça, crise de la sensibilité à l'origine. Et ça avait donc pour vocation d'enrichir notre compréhension de la crise écologique. Et crise de la sensibilité, à la fin, c'est un concept qui a une vocation politique, en un sens bien précis, qui est de poser la question frontalement, pourquoi est-ce que le vivant, le monde vivant qui nous entoure, qui est à l'origine de l'air qu'on respire, de nos propres corps, de nos capacités intellectuelles, émotionnelles, pourquoi n'est-il pas central dans le champ de l'attention politique collective? Comment est-ce qu'on a fait pour le pousser en dehors du champ de l'attention collective? Et ce qui m'intéresse, c'est de travailler à lui redonner de la visibilité dans ce champ de l'attention collective.
Mais vous avez une réponse à cette question? Pourquoi est-ce qu'on l'a autant exclu du domaine politique?
J'ai une réponse, oui. En fait, on peut reprendre les histoires de la modernité tardive, telles qu'on les trouve notamment, par exemple, dans Part de la nature et culture de Philippe Descola, quand il fait cette longue histoire du grand partage, des grands partages. Assez clairement, on voit émerger les grands partages comme des dynamiques d'autonomisation de la sphère humaine. Et le paradoxe assez fascinant dans cette affaire, c'est que ça a été vécu comme des grands moments d'émancipation.
Philippe Descola, anthropologue, qui montre que la distinction traditionnelle entre nature d'un côté et culture de l'autre ne veut rien dire.
C'est ça, ou plus exactement, qu'elle est un construit historique provincial, qui est le nôtre, et qu'elle ne veut dire quelque chose que chez nous, et pas du tout, qu'elle n'a pas du tout l'universalité qu'elle revendique. Une manière de le formuler, c'est une phrase de Claude Lévi-Strauss, qui répond presque à votre question. C'est dans la seconde préface aux structures élémentaires de la parenté, c'est en 1967, je crois, et il dit, c'est très beau parce que Lévi-Strauss, c'est quand même un des grands anthropologues qui a travaillé à fonder l'autonomie de la culture. Dans son dialogue avec les anthropologues marxistes, qui essaient de ramener tout aux infrastructures économiques, dans son dialogue avec les anthropologues adaptationnistes darwiniens, il a passé son temps à dire non, il y a une autonomie de la culture. Et en 1967, vieillissant, commençant à sentir, c'est un précurseur de la sensibilité écologique, Lévi-Strauss, commençant à sentir que nous allions dans une direction très problématique, il écrit, et moi je le lis comme un mea culpa d'anthropologue, il écrit « La différence entre nature et culture n'est pas un donné objectif. C'est un ouvrage défensif que la culture a construit sur son pourtour parce qu'elle ne se sentait pas capable d'affirmer son autonomie sans masquer sa connivence avec toutes les manifestations de la vie. » Et donc, voilà un diagnostic de la part d'un de nos plus grands anthropologues. La différence fondamentale entre nature et culture, c'est un ouvrage défensif qui est le produit de notre héritage de la modernité tardive et qui a eu pour but de couper tous les ponts entre nous et les autres formes de vie, pour affirmer une autonomie de la culture.
Défensif, ça veut dire qu'on se sentait menacé.
C'est exactement ça que sous-entend Lévi-Strauss dans cette formule. On a un sentiment d'autonomie menacée. Alors pourquoi est-ce qu'on a un sentiment d'autonomie menacée? Eh bien, il faut revenir pour faire justice à ce phénomène dans toute son ambivalence, à l'histoire de l'émancipation moderne. Dans l'histoire de l'émancipation moderne, qu'est-ce que c'est que la démocratie? C'est l'idée que le collectif démocratique doit se donner à lui-même sa loi pour ne pas la subir d'une transcendance quelconque, que ce soit Dieu d'un côté ou la nature de l'autre. Et donc, à l'époque où on assimilait Dieu à la nature, où on pensait la nature sous la forme de contraintes transcendantes, on a vécu comme une libération l'idée qu'il fallait autonomiser la culture en l'extrayant de la nature parce que la nature ne devait pas imposer ses lois. Le problème, c'est qu'il y a eu un malentendu colossal sur la nature. La nature, ça n'a jamais été une transcendance, en tout cas celle qui nous intéresse en écologie, ça n'a jamais été une transcendance qui essayait d'imposer au collectif démocratique sa loi. Au contraire, ce sont nos conditions de vie, et ce sont nos cohabitants, non humains, et ce sont les dynamiques de nos milieux qui nous font vivre. C'est pas la même chose qu'un dieu dont il faut s'émanciper, c'est une terre sur laquelle il faut atterrir.
Jusqu'où s'étendent nos cohabitants vivants? C'est la question qui se pose et que pose ce film-là.
Quel est votre but sur Terre? C'est là que vous voulez en venir, n'est-ce pas?
C'est la bonne question.
Ok. Bon,
D'abord, il faut qu'on s'assure qu'ils comprennent ce qu'est une question. D'accord ? La nature exacte d'une demande d'information ainsi que sa réponse. Ensuite, il faut qu'on clarifie la différence de sens entre un vous singulier et un vous collectif. Parce que on se fout de savoir pourquoi Joe l'extraterrestre est ici. On veut savoir pourquoi ils ont tous atterri. Et le mot but exige de connaître la notion d'intention. Nous devons découvrir s'ils obéissent à des choix conscients ou si leurs motivations sont si instinctives que la seule notion de pourquoi n'aurait pour eux aucun sens. Et avant toute chose, il faudrait que nous ayons assez de vocabulaire en commun pour pouvoir comprendre leurs réponses.
La diplomatie interespèce peut-elle s'étendre jusqu'aux extraterrestres? Ça vous met en joie d'écouter cet extrait, Baptiste Morisot, visiblement.
Oui, c'est vrai.
Le film s'appelle Premier Contact, hein, de Denis Villeneuve, 2016.
Ouais, Premier Contact de Denis Villeneuve, c'est un film que je trouve extraordinaire. Et ce passage est particulièrement extraordinaire, parce que là, on voit vraiment de l'intelligence dans toute son incandescence s'exprimer. Donc, c'est l'histoire de. Donc, c'est les extraterrestres qui arrivent sur Terre. Et puis, bien évidemment, ils sont là et on ne parle pas leur langue. Et donc, la CIA ou je ne sais quelle agence de barbouze testostéronée ne sait pas trop quoi faire. Et ils font appel à qui? Ils font appel à une linguiste. Et cette linguiste, c'est elle qu'on entend parler là. Les militaires passent leur temps à exiger d'elle des réponses urgentes sur qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils font là, est-ce qu'on leur envoie des missiles ou est-ce qu'on leur envoie des missiles, c'est essentiellement c'est ça l'alternative. Et là, la scène qu'on vient d'entendre, c'est le moment où elle leur fait la leçon sur en fait non, l'urgence n'est pas possible, parce que si vous voulez que je leur pose une question, il faut arriver à comprendre tous ces micro-éléments qui existent dans la question. Qu'est-ce que vous faites là ou pourquoi êtes-vous là? Il faut que distinguer le vous personnel du vous. Il faut qu'ils comprennent ce que veut dire pourquoi. Il faut qu'on. Et puis il faut qu'on. Et j'adore surtout la dernière phrase. Il faut qu'on ait assez de vocabulaire pour comprendre la réponse.
Oui, c'est ça.
Très bien. On peut leur poser n'importe quelle question, mais on saura absolument pas répondre. Et donc, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est qu'évidemment, c'est une incarnation fictionnelle de ce fameux diplomate interespèce sur lequel j'ai beaucoup travaillé et dans lequel on. Ça met en scène la tentative d'élargir nos possibilités de communication envers des espèces qui ne parlent pas comme nous et qui ne dialoguent pas comme on est en train de le faire ici. Et, mais la communication est possible, c'est ça qui est fascinant dès lors qu'on s'y intéresse de manière un peu poussée.
Mais si c'est la communication entre les espèces qui vous intéresse dans cette continuité du vivant dans laquelle nous nous inscrivons, est-ce que c'est par le langage qu'il faut mener cette réflexion? Est-ce que finalement, là on entend un extrait de film, mais on peut penser à de la musique ou de la chanson, est-ce que c'est pas en explorant une certaine partie de notre sensibilité qui n'est pas ressaisie par le langage que nous pouvons communiquer le mieux avec d'autres espèces que la nôtre?
En tout cas, c'est sûr que c'est pas par le langage qu'on peut communiquer le mieux avec d'autres espèces que la nôtre, ou c'est pas un canal aussi privilégié qu'il ne l'est sur un plateau radio. Le langage, c'est un des possibles. Je donne un exemple qui me fascine. Je vais passer pour un fou, mais c'est pas grave. Une des choses que j'adore dans la vie, c'est les concours de chiens de berger. Mmh. Les concours de chiens de berger, c'est fascinant en fait, parce que vous êtes face à une relation à trois espèces. Donc vous avez le berger, vous avez son chien de conduite, et vous avez un petit troupeau de brebis. Et donc il doit faire un parcours au petit troupeau de brebis, mais il peut pas donner des ordres aux brebis. Il est obligé de passer par le chien. Donc il doit donner des consignes au chien, qui va donner les consignes aux brebis. Donc là, dans le genre diplomatie interespèce, on fait difficilement mieux. Et c'est assez extraordinaire de voir comment ils travaillent. Donc ils utilisent la voix, ils utilisent toute une série de consignes, de gestes. Il y a quelque chose que je trouve assez beau, pour l'anecdote, c'est... Parfois, ils utilisaient un sifflet. Et au début, je comprenais pas du tout pourquoi ils utilisaient un sifflet. Jusqu'à ce qu'un jour, un berger m'explique, il dit « On utilise le sifflet parce que quand on a une journée difficile, qu'on est frustré, qu'on est en colère, et en fait, il faut pas qu'on fasse payer au chien la colère dont il n'est pas la cause, parce qu'il ne comprend pas, et il pense que ça s'adresse à lui, et il ne peut plus suivre les consignes. Et donc, le sifflet fait passer des messages en enlevant la charge émotionnelle de la frustration et de la colère. Donc, vous voyez l'inventivité des humains dès qu'il s'agit d'essayer de communiquer à travers les espèces.
Si on s'approche de votre cœur, on entend ceci.
I've seen you change the water into wine. I've seen you change it back to water too. I sit at your table every night, I try, but I just don't get high with you. I wish there was a treaty we could sign. I do not care who takes this bloody hill. I'm angry and I'm tired all the time. I wish there was a treaty. I wish there was a treaty between your love and mine. Oh, they're dancing in the street, it's Jubilee. We sold ourselves for love, but now we're free. I'm so sorry for that ghost I made you be. Only one of us was real, and that was me.
Que se passe-t-il quand vous écoutez cette chanson de Leonard Cohen, Baptiste Morisot ?
J'adore cette chanson. D'abord, tout cet album, et parce que je trouve qu'il est émotionnellement très puissant, mais celle-là, je l'aime en particulier parce que les paroles. Donc je traduis à l'emporte-pièce ce motif du traité. J'aurais aimé qu'il y ait un traité entre
ton amour et le mien.
Entre ton amour et le mien. Et puis toutes les paroles élaborent cette question qui me travaille énormément, qui est la question de la relation. Et la question de... Parce que justement, toute la diplomatie, c'est pas simplement l'idée de communiquer. C'est le problème de prendre au sérieux les interdépendances. Ou de prendre au sérieux les relations en leur donnant une centralité. Et je trouvais que cette chanson, c'est une certaine manière de poser ce problème.
I heard the snake was baffled by his sin. He shed his scales to find the snake within. But born again is born without a skin. The poison enters into everything. And I wish there was a treaty we could sign. I do not care who takes this bloody hill. I'm angry and I'm tired all the time. I wish there was a treaty. I wish there was a treaty between your love and mine.
Laissons la question du traité un instant de côté, Baptiste Morisot. Je vous ai demandé ce qui se passait en vous quand vous écoutiez cette chanson, parce que c'est une question que vous vous posez dans un ouvrage, alors qui est un peu différent du reste de votre bibliographie, qui s'appelle « Esthétique de la rencontre », que vous avez coécrit avec Estelle Zong-Mangal, sous-titre « L'énigme de l'art contemporain ». Et justement, dans ce livre, vous vous interrogez sur ce qui se passe quand on regarde une œuvre d'art, et c'est souvent, ça arrive avec une œuvre d'art contemporain, et qu'il ne se passe rien. C'est une espèce de rencontre ratée. Quel est le lien entre ce travail-là et le reste de vos ouvrages?
Alors le lien, il y a deux niveaux. Le premier, c'est la réponse, c'est il n'y a pas de lien. En un premier sens, c'est que je me suis retrouvé avec Estelle Zong-Mangual à arpenter les expos d'art contemporain, les biennales, et que comme je ne peux pas arrêter d'être philosophe simplement parce que je suis dans une galerie, l'énigme que constituait cette...
Et donc c'est du vécu.
C'est du pur vécu. L'électroaffectogramme plat traversait des salles et des salles et des salles sans qu'il se passe absolument rien, alors que je partage le sentiment de l'importance de l'art, de la nécessité de l'art, de la grandeur de l'art. Moi, j'ai été fait par les œuvres d'art, elles m'ont travaillé. J'ai écrit des livres parce que des livres m'ont bouleversé, donc je ne suis pas suspectable d'un quelconque cynisme à l'égard de la création. Et donc, justement, qu'est-ce qui s'est passé
pour qu'il ne se passe rien.
Pour qu'il ne se passe rien de manière aussi nette, aussi revendiquée. Et donc, voilà l'énigme qui nous a travaillé. Et on a essayé de faire une généalogie historique au XXe siècle, en prenant tout le monde au sérieux, avec cette idée que c'est pas les spectateurs qui sont des idiots et qui n'y comprennent rien, c'est pas les artistes qui sont des charlatans. Il a dû se passer quelque chose du point de vue de la relation. pour que, à un moment, il y ait tout un pan de l'art contemporain qui s'oriente vers cette cette stratégie qui consiste à ne pas produire d'effets. Ça, c'est la première raison. Et la seconde raison, au-delà de l'énigme vécue, c'est que, en fait, c'était une manière pour moi, en écrivant ce livre, de décrire mon art d'écrire, c'est-à-dire ce que je considérais au contraire, à l'inverse, être une œuvre réussie, qu'elle était presque l'idéal que je me donnais quand moi j'écrivais, puisque j'appartiens quand même à une tradition philosophique nietzschéenne dans laquelle l'idée de création philosophique joue un rôle. On écrit des livres, on appartient à la grande famille des écrivains, et on est là aussi pour produire des effets comme une œuvre d'art produit des effets. Et finalement, ce que j'ai essayé de décrire, c'est ce qui m'a traversé moi, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on lit un livre, par exemple, et qu'il nous transforme en un corps plus intelligent, plus sensible, plus capable de faire face à l'existence. Et c'est ce qu'on a appelé une rencontre individuante, mm-hmm. c'est-à-dire une rencontre qui résout des tensions internes à notre intimité, et qui leur donne forme, qui les profile de manière à nous reprojeter dans l'existence de manière plus fluide, plus vivante. Et c'était ça qu'on essayait de penser. Donc c'était aussi pour moi une manière de me donner l'idéal que je voulais atteindre quand j'écris.
C'est un plaisir pour vous d'écrire ?
Pas du tout. Pas du tout. De temps en temps, vraiment, donc il y a quelques...
Parce que là, vous avez beaucoup écrit ces dernières années en plus.
Oui, oui, mais pas par plaisir. C'est du service public.
C'est du service public. Et ben, vous poussez le sens du devoir très loin.
Ouais, c'est vrai.
Deux livres cette année quand même.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, là, c'est parce que les idées me choisissent et elles me disent au téléphone, là, il faut que tu écrives, il faut que tu nous traduises.
En communication directe avec vos idées.
En communication directe. Et puis, ou alors je suis confronté sur le terrain à un problème très intense et j'ai le sentiment que il faut résoudre ce problème, il faut cartographier mieux cette confusion-là, parce que sinon, l'imagination va dans le mur. Mais non, c'est pas par plaisir. J'ai assez peu de plaisir à écrire. J'ai un plaisir très localisé quand j'ai quasiment fini, quand le livre est fait, notamment l'effort théorique est fait, quand la construction conceptuelle est faite, et le moment où on peaufine. Ça, c'est très agréable, parce que le travail est derrière. Et puis, on peut dégraisser, on peut affiner les formulations, on peut donner de la puissance percussive aux phrases. Mais c'est le rare moment de plaisir que j'ai dans l'écriture.
Mais alors, pourquoi écrivez-vous ? Pourquoi est-ce que vous contentez de faire du terrain ?
Mais je suis sérieux, c'est vraiment du service. C'est pour être utile.
Mais vous savez que l'État n'y est pour rien dans ce livre-là, le service public, l'association des éditeurs.
Mais bien sûr que si. Si, si, parce que c'est en tant que chercheur. Mais non, c'est du service public au sens large.
Il y a un goût de transmettre ? Ou d'exister éditorialement, d'être auteur, justement ou...
Non, non, pas du tout. Pas du tout. C'est marrant, ça. Parce que c'est quoi les alternatives ? Je pense pas qu'il y ait beaucoup de philosophes qui écrivent par plaisir.
Non, vous n'êtes pas obligé de faire de la philosophie.
Ouais, c'est vrai. Non, mais je fais de la philosophie parce qu'encore une fois, je veux essayer de formuler des blocages qui sont collectifs, qui sont partagés, et essayer de proposer des cartes pour s'orienter mieux en eux. Et je cherche ces effets d'intelligibilité. Je suis vraiment, j'ai beaucoup de gratitude pour l'intelligence des autres. J'adore quand je lis des articles ou des livres, quand l'intelligence de quelqu'un m'éclaire. Là, ces derniers temps, je lis tout le travail de Gaël Giraud, un économiste que je trouve extraordinaire. J'ai une gratitude infinie pour l'existence de Gaël Giraud. Je voudrais le remercier.
Je suis sûr qu'il en sera ravi.
Parce que voilà, typiquement, une intelligence limpide qui nous donne accès à des pans du monde qui sont opaques et qui nous font violence à longueur de journée, parce qu'on, l'économie en l'occurrence, parce qu'on n'y comprend rien et qu'elle impacte nos formes de vie de manière tragique. Et là, voilà, une tentative de mettre des mots sur ces expériences et de donner des meilleures cartes pour qu'on comprenne ce qui se joue et surtout qu'on comprenne comment agir. Donc, ça, c'est pour moi, c'est un idéal cartographique qui est suffisamment intense et qui m'a suffisamment, nourri comme lecteur, que j'ai envie de le pratiquer comme écrivain.
La France, c'est le pays des Lumières. C'est le pays de l'innovation. Et beaucoup des défis que nous avons sur tous les secteurs, ils se relèveront par l'innovation. Et donc on va expliquer, débattre, lever les doutes, tordre le cou à toutes les fausses idées. Mais oui, la France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine.
On change d'ambiance. C'est un extrait du 15 septembre 2020, discours qui restera sans doute dans la mémoire, puisqu'Emmanuel Macron compare ceux qui, les détracteurs de la 5G à ceux qui vivent sur le mode, enfin, selon le modèle Amish avec la lampe à huile. Est-ce que le philosophe que vous êtes, Baptiste Morisot, vu le travail que vous accomplissez, le travail de terrain que vous faites, les livres que vous écrivez, est-ce que vous, votre devoir, votre sens du service public vous pousse jusqu'à, on va dire, l'engagement? Pourquoi pas le militantisme, l'engagement politique, et donc à prendre la parole sur la scène publique pour exprimer ou vous battre pour une cause?
Alors oui, mais il y a deux choses à distinguer. D'abord, il y a la question de la 5G. Ça, c'est pas inintéressant pour moi, parce que d'habitude, justement, ma conception de mon propre métier implique que je ne prends pas la parole sur ce sur quoi je n'ai pas enquêté. Je considère en tant qu'intellectuel enquêteur, donc pas l'intellectuel universel de Sartre, même pas l'intellectuel spécifique du Foucault, l'intellectuel enquêteur, que je n'ai pas mon mot à dire sur ce sur quoi je ne suis pas pleinement personnel, parce que je n'ai pas enquêté sur le dossier. Mais je vais faire une exception sur la 5G, parce que j'ai été, comme beaucoup, ulcéré par ce discours que je trouve extraordinaire de mes usages de l'intelligence. C'est ça qui est triste, hein, parce que c'est l'inverse d'un effet d'intelligibilité, c'est du mépris pour l'intelligence de ceux qui écoutent, parce que vous pouvez pas dire, alors on va débattre, on va discuter, mais de toute façon on va le faire, parce que c'est une contradiction dans les termes, ça veut dire qu'on va pas débattre ou qu'on va pas discuter, c'est-à-dire que tout a déjà été décidé. Donc il y a ici une des violences vraiment caractéristiques de la rhétorique dans son mauvais usage. Mais au-delà de ça, la 5G elle-même, pour moi, c'est vraiment navrant la forme que prend le débat actuel, parce que justement, il y a un forçage dualiste qui est typique de ce discours du président, dans lequel il oppose le progrès qui serait unilatéral, univoque, et ce serait une seule voie, et c'est celle qui est choisie, ah tiens, étonnamment, par les grands opérateurs téléphoniques et par les GAFAM. Et puis l'autre option qui serait être rétrograde, vouloir s'éclairer à la lampe à huile et être Amish, avec un mépris non dissimulé pour les Amish qu'on va laisser en dehors du débat par respect pour eux. Ça, c'est vraiment de la très mauvaise philosophie, je suis désolé, et c'est de la très mauvaise pensée. Le grand enjeu de la 5G, c'est pas du tout de savoir si on est un rétrograde ou un progressiste, c'est de savoir si le tissu social qui est le nôtre accepte de se laisser déchirer de manière récurrente par un système technique, par des innovations techniques, alors qu'il n'a pas réussi à digérer la précédente. C'est ça le cœur du problème, c'est la disruption. C'est-à-dire que on est un tissu social dont les formes de vie ont été complètement transformé, sans qu'on nous interroge sur la question, par le Wi-Fi, par les téléphones portables. Et nous n'avons pas encore réussi à inventer des formes sociales qui métabolisent ces phénomènes-là, qui les digèrent.
Les réseaux sociaux, les...
Oui, mais avec toutes les folies qu'ils impliquent.
Et ça, elles sont présentes de toute façon, ces folies-là.
Elles sont présentes parce qu'il n'y a pas eu de lissage, parce que le droit, par exemple, les mœurs n'ont pas encore réussi à faire la part entre le bon grain et l'ivraie, parce que les formes éducatives n'ont pas réussi à savoir à quel moment ça rend fou, à quel moment ça rend bête, à quel moment ça sert à quelque chose. Et donc, l'enjeu de la disruption, c'est ça, puisque c'est de ça qu'on parle. Le débat sur la 5G, c'est certainement un problème énergétique, mais c'est pas fondamentalement un problème environnemental. C'est, peut-on donner à un système technique, à des acteurs de l'innovation, le droit de déchirer tous les 5 ans le tissu social avant même qu'il ait eu le temps de s'ajuster aux dernières innovations?
Sauf que le passage de la 4G à la 5G ne va pas changer la nature de la connexion.
Absolument, puisque le passage de la 4G à la 5G, c'est absolument pas une différence de 1G. C'est un système technique. Et alors là, en effet, c'est quand même ma formation philosophique qui me rend sensible à ça. C'est le concept de système technique chez Simondon. En fait, une innovation, quand il s'agit simplement de changer le débit, n'a pas d'incidence massive, comme vous le dites. Mais là, la 5G n'a pas du tout pour vocation simplement de vous faire télécharger plus vite des films. Elle a pour vocation de mettre en place tout un nouveau système technique qui est ce qu'on appelle l'Internet des objets, ou l'Internet des objets intelligents. C'est-à-dire un Internet dans lequel votre casque audio va discuter avec votre frigo, qui va discuter avec votre voiture, qui va discuter avec votre téléphone. Et ça, c'est parfaitement décrit dans tous les textes de prospective ingénierique qui défendent la 5G. C'est pour mettre en place cet Internet-là, dont on peut sincèrement et sérieusement se demander, sans être des Amish, si on a besoin d'un frigo intelligent qui discute avec une cigarette électronique intelligente et qui discute avec une voiture...
Mais vous dites, ça va trop vite ou c'est inutile?
je dis...
C'est deux choses différentes. On pourrait dire on n'est pas encore prêt, attendons 10 ans, parce que le temps que la société digère la 4G, ou alors, bah non, de toute façon, non, on n'a pas besoin.
Non, je ne dis pas c'est inutile en soi. Je n'en ai aucune idée. J'en ai strictement aucune idée. Ce qui me semble inacceptable et qui me semble parfaitement légitime dans les mobilisations sociales, c'est que, en fait, la société civile se rebelle contre le fait que des acteurs de l'innovation technologique aient le droit de donner forme et de déchirer les formes de la vie sociale sans que la société civile ait son moindre mot à dire là-dedans. Pour moi, c'est ça le sens profond de
mais ce qui arrive tout le temps, ça ne justifie pas que ce soit le fait, mais ça se passe toujours comme ça. C'est rare que la société civile ait son mot à dire quand il y a un changement.
Il faut donner de l'épaisseur historique à ce dossier. Ça se passe tout le temps depuis quelques décennies, grand maximum. Et ça accélère, c'est tout l'objet de la disruption, c'est tout l'enjeu de la disruption de la Silicon Valley, c'est qu'il faut accélérer le rythme de la disruption pour que la société n'ait pas le temps de se faire aux nouvelles innovations techniques avant qu'on en propose une nouvelle. Donc cette accélération du rythme des disruptions, c'est elle qui est profondément toxique et à mon sens, elle explique une part légitime de la lutte contre le discours du président en particulier.
Merci beaucoup Baptiste Morizon. On va se quitter avec une chanson qui est conseillée par vous. Justement, il s'agit de The Strokes, le dernier album Ode to the Met. Vous voulez en dire un mot avant qu'on l'écoute ?
Il faut écouter.
Eh ben, on écoute et on lit. Alors je rappelle le titre de votre livre. Ravivez les braises du vivant, un front commun aux addictions Actes Sud est donc coédité avec Wild Project.
Absolument.
Les diplomates, j'en ai parlé, cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant. Manière d'être vivant, avec la préface d'Alain Damasio qu'on a entendu en début d'émission. Et puis esthétique de la rencontre, l'énigme de l'art contemporain, coécrit avec Estelle Zong-Mangual aux éditions du Seuil. On se quitte donc avec les Strokes, Ode to the Met.
Up on his horse, up on his horse. Not gonna wake up here anymore. Listen in time, it's not the truth. It's just a story I tell to you. Easy to say, easy to do, but it's not easy. Well, maybe for you. Hope that you find it. Some slack as he sits back, sizes you up, plans his attack. Drums, please, fab. And I got it all, I got it all, waiting for me down on the street. But now you gotta do something special for me. What's on my mind? Then I'll walk out. Then I'll feel fine. Yeah, I'm under his thumb. I'm on his back. I will not show my teeth too quick. I need it. I need it. I need it.
Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver comme tous les vendredis notre instant archive, la philo dans le rétro. Cette semaine, c'est Derrida qui, dans l'émission À voix nue en 1998, commentait, à la suite de Baptiste Morizot que vous venez d'entendre, la manière qu'a l'accélération technologique d'engendrer des changements politiques.
Vous croyez avoir la radio ?
Vous n'aurez vraiment la radio qu'avec un poste moderne.
À voix nue.
Je dois dire qu'un des thèmes de réflexion pour moi, s'agissant de la chose politique, c'est justement l'accélération. Essayer de comprendre pourquoi et comment, donc à quelles conditions, le rythme des processus politiques a changé. L'accélération technologique, enfin la transformation technologique, est un des facteurs essentiels de l'accélération politique. Je crois que les phénomènes politiques n'ont pu accélérer leur devenir que à la mesure de l'accélération technologique. Vous savez, on a souvent dit qu'un régime totalitaire ne survivait pas à une certaine densité du réseau téléphonique. Eh bien, il ne résiste pas non plus à une certaine densité de l'information télévisuelle, etc. Et des, du courrier. Bon. Donc là, la technologie et la politique vont de pair dans leur accélération. C'est-à-dire ce qui menace la démocratie, la concentration des pouvoirs économiques qui commandent les médias, les télécommunications, l'informatisation, est un danger pour la démocratie, mais en même temps, cela peut être aussi, en même temps, une chance de démocratisation. Alors, comment répondre au danger sans annuler la chance? Comment garder une chance pour une pensée qui ne règle pas son rythme sur ce rythme-là? Moi, je n'ai pas de réponse, comment dire, normative et générale. Je crois qu'il faut résister, mais il faut inventer chaque fois une forme de résistance qui ne soit pas réactionnaire, réactionnelle, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, par exemple, il ne faut pas s'en prendre simplement à la technologie, aux télécommunications, à la télévision, de façon en quelque sorte massive, homogène et unilatérale, sans savoir que, d'autre part, ces machines-là peuvent servir la démocratie. Donc il faut, dans chaque situation, de façon singulière, prendre la responsabilité d'inventer une réponse. Il faut que chacun, dans chaque situation, imagine la meilleure négociation possible. La meilleure négociation possible. Je ne peux pas, par exemple, défendre simplement l'État contre le marché ou les puissances économiques internationales, sans risquer, naturellement, de sombrer dans un État-nationalisme qui irait à l'encontre de ce que je cherche à protéger. Donc il y a des situations où il faut être, disons, du côté de l'État contre certains pouvoirs économiques internationaux. Mais en même temps, je veux garder le droit et la possibilité de critiquer une certaine prérogative d'État au nom de pouvoirs universels ou internationaux ou de circulation. Et donc, comme on est pris de toute façon dans des impératifs contradictoires, la bonne réponse ne peut pas avoir une forme générale, figée et statique. Il faut la réinventer. Et moi, je ne peux pas séparer ce que vous appelez la pensée ou ici de l'invention singulière, de la responsabilité prise par chacun, à son rythme. Et là, la question du rythme est importante. En effet, il faut prendre le temps de penser et de lire. Prendre le temps de penser et de lire. Alors naturellement, puisque je dis lire, à la fois je vais être de ceux qui militent pour le livre, pour le temps du livre, pour la durée de la lecture, pour tout ce que la vieille civilisation du livre commande, mais en même temps je ne veux pas défendre le livre contre toute espèce de progrès technique qui aurait l'air de menacer le livre. Donc je veux faire les deux choses à la fois, je veux être pour le livre et pour des moyens de communication, d'impression, de distribution, d'échange, qui ne dépendent pas simplement du livre. Hein, et il y en a beaucoup.
Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Salle avec Avril Poignant-Le Goff, Anaïs Isbert, Lila Bozès, Clara De Giovanni, Géraldine Mosna-Savoie. À la réalisation cette semaine, c'était Nicolas Berger, Esther Valencic et Laurence Malonda. À la prise de son aujourd'hui, Nasser Moussaoui. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle série d'émissions autour des classiques de notre enfance. On parlera de la Comtesse de Ségur, du Petit Nicolas, de Roald Dahl, et de La gloire de mon père de Marcel Pagnol. Rendez-vous lundi à 10h. D'ici là, pour réécouter cette émission ainsi que toute cette série de cette semaine autour de 4 concepts d'Emmanuel Kant, vous vous rendez sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien vous pouvez vous abonner au podcast, au téléchargement, afin d'écouter cette émission quand vous voulez, où vous voulez, avec qui vous voulez. L'équipe vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. On est toujours ravis de lire vos remarques et de répondre à vos questions. À lundi, 10h. Et d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.